J'aime pas lire. Bonsoir et bienvenue dans J'aime pas lire. Vous êtes bien sur Radio Canu 102.2 FM à Lyon. Vous pouvez également nous écouter sur radiocanu.org. Ce soir, dans J'aime pas lire, comme annoncé, on vous propose de retrouver Des voix dans la tête, un programme de lecture radiophonique entamé dans l'émission Chasseur de sons avec l'ami Yvan et que nous allons maintenant vous diffuser périodiquement dans J'aime pas lire. Ce soir, vous allez pouvoir entendre la première partie d'un texte qui a été écrit dans l'Antiquité par Lucien de Samosate, une histoire véritable, et c'est la partie 1 de cette histoire que vous allez entendre, lue donc par Yvan Borborythme et moi-même. La lecture sera entrecoupée de quelques interludes qui ont été composés par le musicien Foutrac, qu'il convient d'écrire F-O-U-T-R-A-K-E. Et maintenant, on écoute la lecture d'Histoire véritable de Lucien de Samosate. Let's go.
De même que les athlètes et les hommes qui se préoccupent de leur entraînement physique n'ont pas pour unique souci seulement leur parfaite forme et leurs exercices, mais ont soin de relâcher leur effort au moment opportun, et même ils considèrent que c'est là le plus important de leur entraînement. De même, je suis d'avis que les intellectuels doivent, après s'être adonnés longuement à des lectures sérieuses, relâcher leur esprit et le mettre mieux à même d'entreprendre le travail à venir. Et leur récréation serait on ne peut mieux appropriée s'ils la consacraient à quelques lectures procurant non seulement un amusement spirituel et plaisant, mais apportant en même temps une matière à réflexion qui ne soit pas indigne des muses. Quelque chose qui réponde à l'opinion qu'ils se feront, je suppose, du présent livre. Ce ne sont pas seulement l'étrangeté du sujet, ni le caractère plaisant de l'intention de l'auteur qui les charmeront, ni le fait que nous y entassions de façon vraisemblable et avec une grande apparence de vérité, mille mensonges divers. Mais parce que chaque détail de cette histoire fait allusion, non sans parodie, à l'un ou à l'autre des anciens poètes, historiens, philosophes, qui ont composé des livres remplis de choses qui tiennent du prodige et de la légende. J'en aurais bien donné les noms explicitement si l'on ne devait les reconnaître soi-même sans ambiguïté en lisant, par exemple, Ctésias de Cnide, fils de Ctésiocos, qui a beaucoup écrit sur l'Inde, et ce que l'on y trouve, alors qu'il ne l'a jamais vu, et n'en a jamais entendu parler par quelqu'un qui lui ait dit la vérité. Iamboulos, lui aussi, a écrit beaucoup de récits merveilleux concernant la grande mer. Les mensonges qu'il a imaginés sont évidents aux yeux de tous, mais l'histoire qu'il a composée ne manque pourtant pas d'intérêt. Beaucoup d'autres encore, dans la même intention qu'eux, ont écrit le récit de leurs prétendues explorations et voyages, parlant de la taille des animaux, de la cruauté des hommes et de leurs mœurs étranges. Leur patron et leur maître, celui qui leur a ouvert la voie de cette sorte de charlatanerie, est l'Ulysse d'Homère, qui raconte à Alcinos et ses amis des histoires de vents enchaînés, de cyclopes, de cannibales et de sauvages, ainsi que d'animaux à plusieurs têtes et de métamorphoses provoquées par des philtres et subies par ses compagnons. Et tous les prodiges de cette sorte qu'il fait avaler aux pauvres simples phéaciens. En lisant tous ces auteurs, je ne pus beaucoup les blâmer, car je voyais que c'était la pratique devenue déjà habituelle, même chez des hommes qui font profession de philosophie. Mais ce qui m'étonna de leur part, c'est qu'ils aient pensé que personne ne s'apercevrait qu'ils écrivaient des mensonges. Aussi, poussé moi aussi par la vanité de laisser quelque œuvre à la postérité, afin de ne pas être le seul à ne pas profiter de la liberté d'imaginer des histoires, comme je n'avais rien de véritable à raconter, car il ne m'était rien arrivé qui valût la peine d'en parler, je décidai de mentir, mais avec plus d'honnêteté que les autres, car il est un point sur lequel je dirais la vérité, c'est que je raconte des mensonges. Aussi, je pense, pour éviter que mes lecteurs ne me condamnent, si j'avoue moi-même que je ne dis pas la vérité. J'écris donc sur des choses que je n'ai jamais vues, des aventures que je n'ai pas eues et que personne ne m'a racontées. Des choses qui n'existent pas du tout et qui ne sauraient commencer d'exister. Aussi, mes lecteurs doivent-ils ne leur ajouter aucune créance.
Donc, un jour, partant des colonnes d'Hercule, le cap à l'ouest, vers l'océan, je m'embarquais par un vent favorable. La cause de mon voyage et son intention était l'activité de mon esprit et mon désir de choses nouvelles, ainsi que la volonté de savoir où s'arrêtait l'océan et quels étaient les hommes qui habitaient sur l'autre rive. Pour accomplir mon dessein, je fis provision d'une grande quantité de vivres. Je mis à bord suffisamment d'eau. J'enrôlai 50 de mes camarades, animés du même désir que moi-même. Je préparai quantité d'armes. Et, après m'être assuré à prix d'or les services du meilleur pilote possible, je fis mettre mon bateau, qui était un brigantin, en état de supporter une navigation longue et difficile. Donc, pendant une nuit et un jour, nous naviguâmes avec le vent, mais sans faire beaucoup de route, car la terre restait en vue. Le lendemain, au lever du soleil, la brise fraîchit, la mer devint forte, le temps sombre, et il ne fut même pas possible de carguer la toile. Nous nous abandonnâmes donc au vent, nous laissant pousser par lui, et nous allâmes ainsi pendant 79 jours. Le 80e, le soleil se montra brusquement, et nous vîmes, à quelque distance, une île élevée et boisée, entourée d'une barre assez faible. D'ailleurs, déjà, le plus fort de la tempête était passé. Nous abordâmes donc et nous débarquâmes, épuisés après une si longue épreuve. Nous demeurâmes longtemps étendus à terre. Enfin, nous nous levâmes et nous désignâmes 30 d'entre nous pour rester à la garde du bateau, et 20 autres pour venir avec moi à la découverte de l'île. Nous nous étions éloignés de la mer, à travers bois, d'environ 3 stades, lorsque nous vîmes une stèle de bronze, portant une inscription en caractères grecs, effacée et usée par le temps, disant « Jusqu'ici sont venus Héraclès et Dionysos ». Il y avait aussi 2 empreintes sur la pierre, l'une d'un plêtre, l'autre moins longue. La plus petite, je pense, étant celle de Dionysos, l'autre, celle d'Héraclès. Après nous être prosternés, nous allâmes plus loin. À quelque distance de là, nous nous trouvâmes en présence d'un fleuve où coulait du vin qui ressemblait de fort près à du vin de Chio. Son cours était très abondant et profond, au point que, par endroits, il était navigable. Ce fait nous incita encore davantage à ajouter foi à l'inscription de la stèle, en voyant les traces de la visite de Dionysos. Je décidai de découvrir la source de ce fleuve. Aussi, nous remontâmes son cours, mais ce que nous trouvâmes, ce ne fut pas une source, mais un grand nombre de vignes fortes étendues, chargées de grappes. Au pied de chaque souche jaillissait un filet de vin clair, et ces filets, par leur réunion, formaient le fleuve. Dans celui-ci, l'on pouvait voir quantité de poissons, dont la couleur et le goût étaient tout à fait ceux du vin. De fait, nous en pêchâmes quelques-uns que nous mangeâmes, ce qui nous enivra. En les ouvrant, nous nous aperçûmes qu'ils étaient pleins de lie. On pouvait s'y attendre. Plus tard, nous eûmes l'idée de les mélanger aux autres poissons pêchés dans l'eau, et ainsi nous pûmes tempérer la force excessive de notre vin comestible. Après quoi, nous traversâmes le fleuve à un gué, et nous rencontrâmes, en fait de vigne, quelque chose de prodigieux. À partir de la terre, la souche était vigoureuse et forte. Mais au-dessus, c'était des femmes parfaitement formées à partir des hanches et semblables à Daphné, telles que la représentent les peintres au moment où Apollon la saisit et où elle est juste en train de se métamorphoser en arbre. À l'extrémité de leurs doigts poussaient des rameaux et elles étaient couvertes de grappes. Bien plus, de leur tête sortait une chevelure de vrille, de feuilles et de grappes. À notre arrivée, elles nous saluèrent avec des mots de bienvenue. Les unes en lydien, les autres en langue indienne, mais la plupart en langue grecque. Elles nous embrassèrent même sur la bouche, mais celui qu'elles avaient embrassé devenait immédiatement ivre et titubait. Pourtant, elles ne nous laissèrent pas cueillir de fruits. Cela leur faisait mal, et elles criaient si on essayait d'arracher une grappe. Certaines désirèrent s'unir à nous. Deux de nos compagnons s'approchèrent d'elles, mais ils ne purent plus se détacher, liés qu'ils étaient par les parties viriles. Ils poussèrent donc, comme elles, et comme elles, prirent racine. Et bientôt, des rameaux sortirent de leurs doigts, des vrilles s'enroulèrent autour d'eux, et, en quelques instants, ils furent sur le point de porter des fruits, eux aussi. Nous les laissâmes là, et nous nous enfuîmes vers le bateau, où nous racontâmes à ceux qui étaient restés toute notre aventure, ainsi que les amours de nos camarades avec les vignes. Puis, prenant des amphores, nous ramenâmes à la fois des provisions d'eau et de vin, et après avoir campé pendant la nuit sur la plage non loin de là, dès l'aurore, nous mîmes à la voile par petite brise.
Vers midi, alors que l'île n'était plus en vue, soudain, un tourbillon se forma, fit tournoyer le navire, le souleva à une hauteur d'environ 300 stades et le maintint en l'air, sans le laisser retomber sur la mer. Tandis que le bateau était ainsi suspendu dans les airs, le vent, soufflant dans les voiles, l'emporta en gonflant la toile. Nous naviguâmes donc ainsi dans les airs pendant 7 jours et autant de nuits, et le 8e, nous vîmes une grande terre, pareille à une île dans l'air, brillante, en forme de sphère et illuminée d'une lumière éclatante. Nous y abordâmes, et après avoir amarré le bateau, nous débarquâmes. À l'examen, il se révéla que cette terre était habitée et cultivée. Pendant le jour, de là, on ne pouvait rien voir. Mais, la nuit venue, beaucoup d'autres îles nous apparurent assez proches, les unes plus grandes, les autres plus petites, et leur couleur était celle du feu. Nous vîmes aussi une autre terre, au-dessous de nous, avec des fleuves, une mer, des forêts et des montagnes. Nous conjecturâmes que c'était la terre que nous habitions. Nous décidâmes de pénétrer plus avant, mais nous fûmes arrêtés par des cavaliers vautours que nous rencontrâmes. Ces cavaliers vautours sont des hommes montés sur de grands vautours et se servant des oiseaux comme de chevaux. Les vautours sont énormes et la plupart ont 3 têtes. On peut se faire une idée de leur taille d'après ceci. Le mât d'un très grand bateau de commerce est moins long et moins épais que chacune de leurs plumes. Ces cavaliers vautours ont pour mission de faire en volant le tour du pays, et s'ils rencontrent un étranger, de l'amener au roi. Aussi nous arrêtèrent-ils et nous examinèrent-ils devant celui-ci. Le roi nous examina et, jugeant à notre vêtement, nous dit:
« Vous êtes grec, n'est-ce pas? Étranger ?»
Et comme nous disions « oui », il reprit:
« Et comment êtes-vous arrivé ici, avec une telle étendue d'air à traverser ?»
Nous lui racontâmes tout. Après quoi, il se mit à nous raconter sa propre histoire. Comment il était, lui aussi, un être humain, appelé Endymion. Comment il avait été enlevé à notre terre, autrefois, alors qu'il était endormi, et comment à son arrivée dans ce pays, il en était devenu le roi. Il nous dit que le pays où nous étions était la lune, que nous voyions d'en bas briller au-dessus de nous, lorsque nous étions sur la terre. Il nous invita à ne pas avoir peur et à ne craindre aucun danger. Nous aurions tout ce dont nous aurions besoin.
Et si je mène à bien,
ajouta-t-il,
la guerre que je conduis en ce moment contre les habitants du soleil, vous trouverez auprès de moi la vie la plus agréable du monde.
Et nous lui demandâmes quels étaient ses ennemis et la cause du différend.
Phaéton,
commença-t-il,
le roi des habitants du soleil, car le soleil est habité comme l'est la lune, est en guerre contre nous depuis très longtemps. Cette guerre commença pour la raison suivante. Une fois, je réunis tous les plus pauvres de mon royaume et décidai de fonder une colonie dans l'étoile du matin, qui était déserte et où n'habitait personne. Mais Phaéton, jaloux, empêcha la fondation de la colonie en se dressant en face de nous, à mi-route, avec ses cavaliers fourmis. Cette fois-là, nous fûmes vaincus, car nous n'étions pas de force à leur résister, et nous battîmes en retraite. Mais maintenant, je désire reprendre la guerre et installer cette colonie. Si vous le voulez, participez à l'expédition avec moi. Je vous ferai donner à chacun l'un des vautours royaux et un équipement complet. Demain, nous nous mettons en campagne.
Soit, répondis-je, puisque tu le souhaites. Ce soir-là, nous fûmes ses hôtes. Et dès l'aube, nous nous levâmes et prîmes nos postes, car les guetteurs annonçaient que l'ennemi était proche. L'effectif de notre armée était de 100 000 hommes, sans les porteurs, les hommes du génie, les fantassins et les auxiliaires. Sur ce nombre, il y avait 80 000 cavaliers vautours et 20 000 autres cavaliers montés sur des salades ailées. Ces salades ailées sont d'énormes oiseaux qui, en guise de plumes, ont tout le corps hérissé de salades et des ailes faites de feuilles très semblables à celles de la laitue. À côté de ces troupes avaient pris position les lance-millets et les bombardiers d'ail. Le roi avait aussi reçu un contingent d'alliés de la Grande Ourse, 30 000 lance-puces et 50 000 courvents. Les lance-puces sont montées sur d'énormes puces, ce qui leur vaut leur nom. La taille de ces puces est à peu près celle de 12 éléphants. Les courvents sont des fantassins. Ils volent en l'air, sans ailes. Voici la façon dont ils procèdent pour avancer. Ils font blouser leurs longues tuniques et les tendent au vent comme des voiles, qui les entraînent à la façon de bateaux. La plupart d'entre eux servent comme infanterie légère sur le champ de bataille. On disait aussi que les étoiles du ciel de Cappadoce viendraient 70 moineaux glands et 5 000 cavaliers grus. Mais je ne les ai pas vus, car ils ne vinrent pas. Aussi n'ai-je pas osé dire comment ils sont faits. Les histoires que l'on racontait à leur sujet étaient extraordinaires et incroyables.
Telles étaient les forces d'Endymion. L'équipement de tous les soldats était le même. Casque de haricots, les haricots du pays sont énormes et résistants. Cottes de mailles, toutes de lupins. On coud ensemble les cosses des lupins pour faire ses cuirasses, car là-haut, la cosse du lupin est aussi solide que de la corde. Les boucliers et les casques, comme ceux des Grecs. Lorsque le moment fut venu, voici quel était l'ordre de bataille. L'aile droite était tenue par les cavaliers vautours, et le roi, avec l'élite autour de lui, nous faisions partie du groupe. À l'aile gauche, les salades ailées. Au centre, les alliés, dans la formation qu'ils voulaient. L'infanterie était d'environ 60 millions, engagée ainsi. Les araignées dans ce pays sont nombreuses et énormes, chacune d'elles beaucoup plus grande que les îles des Cyclades. Leur roi leur avait ordonné de tisser une toile entre la lune et l'étoile du matin. Dès qu'elles eurent terminé et formé ainsi une plaine, il y déploya l'infanterie, commandée par Chouette, fils de Botan, et deux autres avec lui. Du côté des ennemis, l'aile gauche était tenue par les cavaliers fourmis, et parmi eux, Phaéton. Ce sont des animaux énormes, ailés, semblables aux fourmis de notre pays, la taille exceptée. Les plus grandes d'entre elles atteignent jusqu'à 2 plètres. Non seulement leurs cavaliers combattaient, mais aussi les fourmis, qui se servaient beaucoup de leurs antennes. On disait qu'il y en avait dans les 50 000. Sur leur droite étaient rangés les moustiques de l'air, qui étaient, eux aussi, dans les 50 000, tous des archers montés sur d'énormes moustiques. À côté d'eux, les danseurs de l'air, des fantassins légers, redoutables eux aussi, car ils lançaient de très loin, avec des frondes, des radis énormes. Quiconque était touché par l'un de ces projectiles ne pouvait survivre un instant. Il mourait et une puanteur se mettait dans sa blessure. On disait qu'ils enduisaient leurs projectiles avec du poison de mauve. À côté d'eux venaient les champignons-tiges, qui étaient des hoplites, combattants de près au nombre de 10 000. On les appelait champignons-tiges parce qu'ils se servaient de champignons comme boucliers et comme lances de tiges d'asperges. Près d'eux étaient placés les chiens glands, envoyés par les habitants de Sirius. Ils étaient 5 000 hommes à tête de chien, combattant sur des glands ailés. On disait qu'il y avait, chez Phaéton aussi, des contingents alliés en retard, ceux qu'il avait convoqués depuis la Voie lactée, qui étaient des frondeurs et des centaures nués. Ceux-ci arrivèrent une fois le sort de la bataille décidé, si seulement ils n'étaient pas venus. Les frondeurs, eux, ne vinrent pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle, plus tard, Phaéton, furieux, ravagea, dit-on, leur pays par le feu. Telle était la formation dans laquelle Phaéton attaqua. Passant à l'assaut, dès que les enseignes eurent été élevées et que, des deux côtés, les ânes eurent bray, qui, chez eux, font office de trompette, on commença la bataille. L'aile gauche des solaires céda aussitôt, sans même attendre la charge des cavaliers vautours, et nous suivîmes, tuant et massacrant. Mais leur aile droite enfonça notre aile gauche, et les moustiques de l'air parvinrent, dans la poursuite, jusqu'à l'infanterie. Là, comme les fantassins venaient à la rescousse, ils plièrent, surtout lorsqu'ils virent que les troupes de leur aile gauche étaient battues. C'était une victoire magnifique. On fit beaucoup de prisonniers, on massacra beaucoup, il coula beaucoup de sang sur les nuages, si bien qu'ils furent teints et parurent rouges, comme chez nous au coucher du soleil. Et il en tomba aussi sur la terre, si bien que je suppose qu'il se passa, autrefois, quelque chose comme cela dans le ciel, lorsque Homère supposa que Zeus envoyait une pluie de sang lors de la mort de Sarpédon.
En revenant de la poursuite, nous dressâmes 2 trophées, l'un sur la toile d'araignée, en l'honneur du combat d'infanterie, l'autre en l'honneur du combat aérien, sur les nuages. Nous venions d'achever lorsque les guetteurs annoncèrent l'arrivée des centaures nués, qui auraient dû venir renforcer Phaéton avant la bataille. Effectivement, nous les vîmes arriver, formant un spectacle absolument extraordinaire, chevaux ailés et hommes mélangés. La taille des hommes était celle du colosse de Rhodes, depuis la moitié du corps jusqu'en haut, celle des chevaux, la grandeur d'un fort navire de transport. Quant à leur nombre, je ne le donne pas, de peur qu'il ne paraisse exagéré, tant il était considérable. Ils avaient à leur tête l'archer du zodiaque. Lorsqu'ils virent que leurs amis avaient été vaincus, ils envoyèrent un message à Phaéton, lui demandant d'attaquer à nouveau, tandis qu'eux-mêmes, en bon ordre, tombaient sur les lunaires en désordre qui s'étaient égayés pour la poursuite et le pillage. Ils les mettent tous en fuite et chassent le roi lui-même jusque dans sa ville, lui tuant la plupart de ses oiseaux. Après quoi ils jetèrent bas les trophées, chargèrent à travers toute la plaine tissée par les araignées et me firent prisonnier avec deux de mes compagnons. À ce moment, Phaéton lui aussi était là, et de nouveau les trophées furent élevés, mais par eux. Quant à nous, nous fûmes emmenés sur le soleil le lendemain, les poignets liés derrière le dos avec un morceau de toile d'araignée. Les ennemis décidèrent de ne pas assiéger la ville, mais, en se retirant, de construire un mur en travers de l'air, de façon à empêcher les rayons du soleil de parvenir à la lune. Le mur était double, fait en nuages, ce qui produisit une véritable éclipse de lune, et celle-ci fut entièrement entourée de nuit. Endymion, réduit à merci par ces mesures, leur envoya une ambassade pour les supplier de détruire leur construction et de ne pas les laisser vivre ainsi dans l'obscurité. Il promit d'autre part de payer tribut, d'être leur allié, de ne plus leur faire la guerre, et consentit spontanément à leur donner des otages en garantie. Phaéton et les siens tinrent deux assemblées. À la première, leur colère demeura entière, mais le lendemain, ils changèrent d'avis, et la paix fut conclue aux conditions suivantes. Les solaires et leurs alliés concluent la paix avec les lunaires et leurs alliés, selon les termes suivants. Les solaires détruiront le mur qu'ils ont construit. Ils s'engagent à ne plus attaquer la lune et à rendre les prisonniers, chacun pour une rançon déterminée. Les lunaires, d'autre part, rendront l'autonomie aux autres étoiles et ne porteront plus les armes contre les solaires. Chacun des deux pays portera secours à l'autre en cas d'attaque d'une tierce puissance. Le roi des lunaires paiera chaque année au roi des solaires, à titre de tribut, 10 000 amphores de rosée et donnera en otage 10 000 de ses sujets. La colonie, projetée dans l'étoile du matin, sera fondée en commun par les deux peuples et pourront y participer tous ceux des autres peuples qui le désireront. Ce traité sera gravé sur une stèle d'ambre et affiché au milieu de l'air, à la frontière commune. On prêtait le serment pour les solaires, feu ardent, estival, flamand. Pour les lunaires, nuiteux, croissant, brillant. Tels furent les termes de la paix. Aussitôt, le mur fut détruit et nous, les prisonniers, nous fûmes restitués. À notre retour dans la lune, nous fûmes accueillis par nos camarades et Endymion lui-même, qui nous embrassèrent en pleurant. Le roi souhaitait que je reste avec lui et que je participe à la fondation de la colonie. Il me promettait de me donner son fils en mariage, car il n'y a pas de femme là-haut. Mais je lui demandais de me permettre de redescendre sur la mer. Quand il comprit qu'il ne pourrait me persuader, il me permit de repartir après nous avoir gardés comme hôtes pendant 7 jours.
Tout ce que, au cours de mon séjour dans la lune, je remarquais d'étrange et de bizarre, va faire maintenant l'objet de mon exposé. D'abord, il y a le fait qu'ils ne sont pas enfantés par des femmes, mais par des hommes. Ils épousent en effet des hommes et ne connaissent même pas de terme pour désigner la femme. Jusqu'à 25 ans, chacun d'eux sert d'épouse, après quoi il devient un mari. Ils ne portent pas les enfants dans le ventre, mais dans le gras du mollet. Lorsque l'embryon est conçu, le mollet grossit. Un peu plus tard, on ouvre le mollet et l'on sort l'enfant mort. Après quoi, on expose celui-ci au vent, la bouche ouverte, ce qui lui rend la vie. Je crois que c'est là l'origine de notre expression grecque « le ventre de la jambe », puisque là-haut, c'est le mollet qui conçoit et non le ventre. Mais je vais vous raconter quelque chose de plus extraordinaire encore. Il existe chez eux une espèce d'homme que l'on appelle les arboréens et qui naît de la façon suivante. On coupe le testicule droit d'un homme et on le plante en terre. Il en sort un arbre énorme, en chair, semblable à un phallos. Il a d'ailleurs des branches et des feuilles. Les fruits sont des glands d'un diamètre d'une coudée. À maturité, on les cueille, on casse la coque et il en sort des hommes. Et encore ceci, ils ont des parties viriles artificielles, tantôt d'ivoire, tantôt, les pauvres, de bois. Et c'est avec cela qu'ils font l'amour et qu'ils s'unissent à leurs compagnons. Lorsque les individus vieillissent, ils ne meurent point, mais se dissolvent comme de la fumée et se transforment en air. La nourriture est la même pour tous. Ils commencent par allumer du feu et cuisent des grenouilles sur les charbons. Il y a chez eux quantité de grenouilles qui volent dans l'air. Pendant qu'elles cuisent, ils s'assoient tout autour, comme s'ils étaient installés à une table, hument la fumée qui s'exhale de la cuisson et font ainsi bonne chère. Telle est leur nourriture. Quant à leur boisson, c'est de l'air que l'on exprime dans une coupe et qui produit un liquide pareil à de la rosée. Ils n'ont d'ailleurs jamais besoin d'uriner, ni d'aller à la selle. Ils ne possèdent pas d'orifice comme nous, et le siège des petits garçons n'offre aucune possibilité de recevoir le mal. Cela se passe dans le creux du genou, au-dessus du mollet. C'est là que se trouve l'orifice. Chez eux, l'on considère comme un bel homme quelqu'un qui est chauve et entièrement dépourvu de cheveux. Un homme chevelu est peu goûté. Sur les comètes, c'est le contraire. Les hommes chevelus y passent pour beaux. Il y en avait venus de là-haut qui nous en parlèrent. Les lunaires possèdent de la barbe qui pousse un peu au-dessus du genou. Ils n'ont pas d'ongles aux orteils et n'ont d'ailleurs qu'un seul orteil. Au-dessus de leurs fesses pousse une feuille de chou, formant une queue énorme, toujours verte, et qui ne se casse pas si l'homme vient à tomber en arrière. De leur nez coule un miel fort acre. Lorsqu'ils travaillent ou font des exercices physiques, tout leur corps distille une sueur de lait, de telle sorte qu'elle se transforme en fromage s'il y coule une goutte de miel. Ils font de l'huile avec des oignons, une huile très grasse et parfumée comme de la myrrhe. Ils ont aussi beaucoup de vignes qui produisent de l'eau. Les grains de raisin sont comme des grêlons et, selon moi, lorsqu'il s'élève un vent qui secoue les grappes, à ce moment-là, la grêle tombe du ciel parce que les grappes s'égrènent. Ils utilisent leur ventre comme besace et y placent tout ce dont ils ont besoin. Leur ventre peut s'ouvrir et se refermer. Il ne contient apparemment aucun intestin. Seulement, l'intérieur en est tout velu et hérissé de poils, si bien que les nouveau-nés, lorsqu'ils gèlent, viennent s'y fourrer. Le vêtement des riches est de cristal filé et celui des pauvres de bronze tissé, car le pays est très riche en bronze, et l'on travaille le bronze en l'assouplissant à l'eau, comme on fait des toisons. Quant à ce qui concerne les yeux qu'ils ont, j'hésite à en parler, pour que l'on ne croie pas que je mens, tant ce que l'on peut en dire est incroyable. Pourtant, je vais parler aussi de cela. Leurs yeux sont amovibles, ils les enlèvent à volonté et les mettent de côté jusqu'à ce qu'ils aient besoin de voir. Il y en a beaucoup qui, ayant perdu leurs yeux à eux, en empruntent à d'autres pour voir. Il y en a aussi qui ont un grand nombre d'yeux en réserve. Ce sont les riches. Leurs oreilles sont des feuilles de platane, sauf pour les êtres nés de glands. Ceux-là, mais eux seuls, ont des oreilles de bois. J'ai vu encore une autre merveille dans le palais royal. Un très grand miroir est disposé au-dessus d'un puits qui n'est pas fort profond. Si quelqu'un descend dans ce puits, il entend tout ce qui se dit chez nous, sur la terre. Et si l'on regarde dans le miroir, on voit toutes les cités, toutes les nations, exactement comme si l'on était au milieu d'elles. À cette occasion, je vis moi-même ma famille, ainsi que ma patrie tout entière. Mais me virent-ils eux-mêmes ? Cela, je ne puis encore l'assurer pour certain. Quiconque ne croit pas qu'il en est vraiment ainsi, s'il lui arrive un jour de monter lui-même jusque-là, s'apercevra que je dis la vérité.
De lecture donc que nous vous proposons autour de textes qui parlent de voyages au-delà de la Terre et qui ont été écrits avant le XXe siècle. Voilà qui nous fera voyager dans l'espace comme dans le temps. Et maintenant je vous propose une lecture, un bel extrait de Passagère du silence. J'ai déjà pu lire du Fabienne Verdier, Passagère du silence, un récit autobiographique de cette peintre française née en 1962 qui, après un diplôme aux Beaux-Arts de Toulouse en 83, est allée étudier en Chine. Elle est la première étudiante étrangère à avoir eu un diplôme après 10 ans d'études en Chine. Voici cet extrait. Il s'agit du chapitre 9 qui s'intitule « Les clochards célestes, là où les dieux du bonheur ont caressé mon front ». Let's go. Un jour, Maître Huang m'annonça son intention de faire une excursion au mont Emei. Un mois au moins serait nécessaire pour visiter tous les temples de ce massif montagneux. La perspective de quitter l'université si longtemps me ravissait. Plusieurs étudiants m'avaient parlé de cette montagne qui offrait des paysages parmi les plus beaux de Chine. Un matin, nous sommes donc partis pour Chengdu. De là, nous avons pris un bus pour Meishan, car le maître désirait rendre hommage au grand lettré du XIe siècle, Su Dongpo, originaire de cette bourgade. Nous avons visité sa maison et le temple qui lui était dédié. Les Chinois construisent des temples à la mémoire de leurs grands hommes. Pour les confucianistes, ils représentent des modèles à vénérer, et pour les fidèles de la religion populaire, des incarnations des puissances stellaires. Il fallait beaucoup d'imagination pour se faire une idée de ce qu'avait pu être sa demeure au milieu des bâtiments en faux style traditionnel, de toute évidence restauré assez récemment pour y abriter une sorte de musée. Il n'y avait pas grand-chose à voir, sinon quelques éditions modernes de ses œuvres. Quant au temple, il était vide. Les statues, détruites par les gardes rouges pendant la Révolution culturelle, n'avaient pas encore été remplacées. Si le fantôme du poète habitait encore les lieux, il devait plutôt hanter le jardin qui, seul, évoquait l'atmosphère du passé. Nous nous y sommes assis et le maître m'a raconté la vie de l'écrivain. Su Dongpo est né ici. Sa mère, fort cultivée, était une bouddhiste fervente. Son père, un propriétaire foncier. À l'origine assez inculte, ce fut sa femme qui lui donna le goût des lettres, et c'est tard dans sa vie qu'il s'est mis à étudier. Il s'y est consacré avec une telle ardeur qu'il est devenu un lettré aussi important que ses deux fils, qui, eux, avaient eu accès dès l'enfance à l'éducation. Tu vois, il n'est jamais trop tard pour apprendre, et même si, dans la vieillesse, l'étude n'apporte plus une lumière étincelante, mais la flamme vacillante d'une bougie, celle-là est encore préférable à l'obscurité. Après les examens impériaux, Su Dongpo est devenu fonctionnaire, comme la plupart des écrivains chinois. Sa vie officielle fut ponctuée de malheurs. Il connut la prison. Par deux fois, il fut envoyé en exil dans des régions lointaines et mis en demi-solde. Mais ses expériences douloureuses n'altérèrent en rien sa sagesse. Il prenait plaisir à une vie simple et la pauvreté ne lui déplaisait pas. Cependant, il voulait servir l'État, soulager la misère du peuple et l'exil empêchait l'une et l'autre tâche. Son époque n'était pas sans parallèle avec la nôtre. Certains ministres imposaient des réformes. Ils instauraient des milices, des coopératives, la socialisation des terres, la responsabilité collective, avec les meilleures intentions du monde. Su Dongpo a tout de suite compris que, au lieu d'améliorer la vie des gens, l'emprise de l'État ne crée que souffrance. Il eut le courage de s'y opposer ouvertement, ce qu'il dut payer de son renvoi quand ses ministres réformateurs furent au pouvoir. Il voit une grande admiration à Tao Yuanming, poète du 5e siècle, dont il calligraphia l'œuvre. Il aurait souhaité ressembler à cet homme qui avait choisi de vivre à la campagne, dans le dénuement, n'avait accepté qu'un poste de fonctionnaire local subalterne, et encore, pendant peu de temps, parce qu'il y avait vu l'occasion d'obtenir du vin. Tao Yuanming a regretté cette faiblesse passagère dans l'un de ses poèmes. « Depuis toujours, j'ai été en désaccord avec le monde. Mon amour instinctif va aux collines et montagnes. » Par malheur, je suis tombé dans les filets de la poussière et, pendant 13 ans, fus éloigné de ma demeure. L'oiseau migrateur rêve de sa forêt natale. Le poisson dans le réservoir se souvient des eaux profondes. Maintenant, je défriche quelques arpents au sud de la ville et reste un homme simple, revenu à la terre. J'ai oublié le reste du poème, s'attrista mon maître. Je ne me souviens que des deux derniers vers. Pendant trop longtemps, je fus un prisonnier en cage. Voici que je retrouve la liberté. Mais Su Dongpo fut incapable de démissionner. Il resta prisonnier de l'illusion qu'il pouvait changer la société. Le vieux Huang continua. J'avais un ami qui, à la fin de la Révolution culturelle, a cru, lui aussi, qu'il était possible de modifier le cours de l'histoire. Il est entré au parti. Il disait qu'il fallait participer à la vie politique. Au lieu de critiquer et maugréer, mieux valait réformer de l'intérieur. C'était la seule façon de faire évoluer la situation. Il avait oublié qu'il fallait du temps, beaucoup de temps, pour changer les mentalités. Il s'est lancé dans des propositions trop radicales pour être accepté, et, très vite, c'est lui qui a été réformé. Maintenant, il n'ose plus rien dire et doit se contenter de soupirer ses regrets. N'entre jamais en politique. Tu ne changeras rien, mais la politique te changera. Mieux vaut être la tortue qui agite sa queue dans la boue, loin des hommes. plutôt que la tortue qui finit dans la marmite. Vous avez sûrement raison, maître, quand il s'agit d'une dictature. Mais en France, grâce au vote et à la liberté d'expression, nous pouvons du moins empêcher certains excès et lutter contre les atrocités. Ne puis-je m'empêcher de rétorquer. À cette sornette, interférer en politique, c'est remplacer son idéal par la rouerie des compromis, s'entraîner à se leurrer soi-même. Les hommes politiques sont, comme ceux qu'ils gouvernent, les jouets de situations qui les dépassent. Oui, tu peux changer le monde, et même en profondeur. Non par la politique, qui ne sait qu'osciller entre la domination des uns et la soumission des autres, mais par ton art. Dis-moi quel empereur, quel chef ont autant transformé la société que ceux qui ont inventé la scie et le rabot, la roue et l'horloge, la voiture et l'avion. Pourtant, tu serais bien incapable de me citer leurs noms. Le petit livre rouge n'est pas si vieux et il n'est déjà plus qu'un objet de collection recherché par les antiquaires. Alors que Lao Tzu et Confucius continuent à être lus. Ce sont les savants et les penseurs qui changent le monde. Et aussi les artistes, de façon moins évidente, mais tout aussi féconde. Léonard de Vinci a changé le regard des Occidentaux. Et Wu Daozi, celui des Chinois. Tu veux aider autrui ? Alors cultive ta peinture. Parfais ton art. Tu proposeras aux autres, au lieu de leur imposer, un fil de pensée, une ouverture sur un ailleurs. Toute sa vie, Su Dongpo s'est cru obligé de demeurer un dignitaire de l'État. Que reste-t-il de son action ? Une digue inutile sur un lac à Hongzhou ? En revanche, par ses essais, ses poèmes, il a laissé une trace durable. Il nous a appelé un art de vivre, empreint de sagesse, qui enseigne à mieux supporter les vicissitudes. Que demander de plus ? Le lendemain, l'ascension commença. D'abord au milieu des touristes et des pèlerins, mais très vite, le maître abandonna le chemin principal qui conduisait au sommet pour suivre des sentiers de traverse où nous étions seuls la plupart du temps. Nous montions et descendions sans cesse, traversions des vallées où s'accrochaient quelques fermes, avec des vergers en pente et de petits champs en terrasse. Le soir, nous nous arrêtions chez des paysans ou dans un monastère. Le maître était venu si souvent que presque tout le monde le connaissait et nous cédait volontiers une chambre pour passer la nuit, avec deux lits de camp et une couverture chacun. Les repas qu'on nous offrait étaient très simples, mais bons. Après une journée de marche, malgré de nombreuses haltes, nous étions fourbus. Au cours de l'ascension, inspiré par la beauté du site, je retrouvais certaines pensées poétiques que je tentais de partager avec lui. Celle de Paul Valéry, dans La Fileuse, par exemple. Un arbuste et l'air pur font une source vive. Je la clamais dans la montagne qui s'en faisait l'écho. Ou bien, pour le plaisir, je hurlais dans une faille minérale ces mots de Goethe. L'instant qui passe est de l'éternité. Ensemble, nous vivions des émotions intenses, d'une joie limpide. Quand l'apprenti progresse et qu'il ose, spontanément, offrir quelques pensées fugitives au maître, c'est que le fruit mûrit. Mon maître était heureux et fier pour la journée. C'était comme si, peu à peu, les cellules de mon cerveau établissaient, avec une extraordinaire vélocité, des rapports instinctifs entre le vécu de ma modeste expérience poétique en France et les moments que je vivais dans ces altitudes. J'étais étonné de la mutation qui se produisait en moi, à mon insu, naturellement. Avant de nous coucher, le maître procédait à un rite immuable. Il empruntait deux cuvettes, y versait de l'eau très chaude, et nous restions assis, les pieds dans l'eau, pendant une heure. Selon lui, c'était un moyen infaillible pour bien dormir et repartir de pied ferme le lendemain. Nous profitions de ces moments pour bavarder et n'oubliant jamais qu'il était de son devoir de m'éduquer, il en profitait pour me transmettre des légendes, me réciter des poèmes qu'il m'expliquait ensuite. Plusieurs fois, nous sommes revenus sur certains aspects de la pensée chinoise. Notre grand amusement était de discuter à perte de vue sur le thème du microcosme et du macrocosme. Un astrophysicien éminent de chez nous, du nom de Hubert Reeves, lui disais-je, pense que nous ne sommes finalement que des poussières d'étoiles. Il a raison, cet homme. Un vieux sage grec a même dit « L'âme est une étincelle d'essence stellaire ». Croyez-vous cela possible? C'est en tout cas une jolie approche. Je lui parlais des images que le télescope spatial Hubble nous avait rapportées de l'espace, à plus de 7000 années-lumière de la Terre. Je lui racontais combien j'avais été frappé par la ressemblance entre une pierre de rêve et les photos prises de la planète Mars. Je lui expliquais aussi que, quand j'étudiais à la loupe la composition de l'encre dans les lavis des tableaux que nous travaillions ensemble, j'y décelais la même matière que dans les jets de jeunes étoiles du cosmos. D'épais nuages de poussière transportés par des gaz, telles les poussières minérales de l'encre de Chine, nées d'un flux d'énergie, obéissant certainement aux mêmes forces magnétiques. Le maître se moquait de moi. Cela fait plus de 2000 ans que nous, Chinois, en avons l'intuition. Mais il est bon d'écouter ton histoire et d'avoir aujourd'hui, grâce au projet technologique, quelques images révélatrices du mystère de l'univers en mouvement. J'aimerais beaucoup voir ces images. Comprends ceci. Dans l'infiniment petit de l'espace de nos tableaux, nous ne faisons que reproduire le principe de l'infiniment grand du cosmos. Avec un regain d'enthousiasme, je lui rétorquais. Finalement, nous pourrions dire, et ce serait très joli, que la création d'un tableau est identique à la naissance d'une étoile. J'étais ravi de mon idée qui venait justement de surgir alors que nous avions toujours les pieds dans la bassine. L'eau tiédissait, le maître souriait, la cigarette au coin des lèvres. Nous restions ainsi, heureux, dans le silence de la montagne, perdus dans nos drôles de réflexions, pourtant si fondamentales. Désireuse de le remercier de son enseignement, je me lançais à nouveau dans une tentative de traduction. Quand j'étais petite, ma tante me répétait souvent cette pensée du poème anglais William Blake. Voir un univers dans un grain de sable et le ciel dans une fleur des champs. Tenir l'infini dans sa paume, mettre l'éternité dans une heure. Bravo Fabi, me rétorquait le maître hilar. Je te répondrai en évoquant le peintre Bada Chanren. Ah, l'univers entier dans une fleur de lotus. Puis il partait dans une longue réflexion. Je t'ai déjà dit qu'il n'est pas nécessaire de connaître le sens des caractères que tu calligraphies. Ce n'est pas ton propos, puisque tu es peintre. En revanche, pour maîtriser la calligraphie et la peinture chinoise, tu dois en connaître l'esprit. Et pour cela, ne pas te limiter au texte esthétique. Il y a dans le taoïsme et le bouddhisme de quoi glaner pour nous, artistes. Les penseurs taoïstes de l'Antiquité n'ont jamais parlé d'art. Et pourtant, ce sont eux qui ont fourni la base de notre pensée esthétique. Il faut apprendre, puis oublier ce qu'on a appris. Retrouver le naturel jusqu'à parvenir à créer sans effort. Cela paraît simple, mais en fait, il est très difficile de retrouver sa véritable nature. Surtout à une époque où la famille, l'éducation, les règles sociales, la pression des autres, les modes nous façonnent à notre insu. Je vais arrêter là la lecture de Passagère du silence de Fabienne Verdier. Quoi qu'il me démange de la continuer, tant je trouve ce livre merveilleux. Nous allons vous laisser maintenant quelques minutes avec de la musique. Your Old Drug Cosmonaut, un rappeur américain. Puis vous pourrez retrouver votre programme Cannabis Circus à 21h. À bientôt dans J'aime pas lire. La semaine prochaine, nous recevons l'artiste écrivain Les Morts que nous avions reçu lors de notre toute première émission. Vous pourrez la réécouter sur Audioblog si le cœur vous en dit. à la semaine prochaine.
My next shit is off the meat rack. Fuck, I need that Chloe Bailey beat pack. When I drop material, they take a seat back. Lucky Charms, your favorite cereal, you still can eat snacks. Ain't gotta go to music class, still can beat flat. Spittin' beef rap like you ain't been waxin' speed cat. Stop. As far as publishing goes, you gettin' teabagged. Know your ass cat, but what's that in your mouth? I see sack. Ball biters, we pullin' all-nighters. Yard is the best, lest you forget. We all writers, make beautiful art, but deep down at heart, we bar fighters. More heat and pads than your granny's arthritis. What? Don't make me pay a visit to the nursing home. Spend the rest of your life regretting the second that you cursed the throne. Sold at your mother's job like 50 Cent and DJ Khaled. Knowing her, to probably be on Hunt's Point. Hey yo, I'm the rap Dame Lillard. You the rap Dame Lillard. Voice was telling me that you cats became iller. But I almost fell asleep when you spat your lane filler.
Deadass.
Just talk a good game like Jay Billis. Do good people out of they money like Faith Hillers.
Peter Pop.
The real ones, they fillers. This for all the guys trying to do donuts for they die like Jay Dilla. Cats just mad cause my status getting brolica. Got them out of pocket like Naps to have Metallica.
Remember that.
Aiming at the Lord, you'll need a bigger caliber. You hold a rusty sword, I swing the Excalibur. Probably mad I ain't remain a pal to ya. Use a hack, watch you split your melon like Gallagher. Unworthy challenges, taking shots on albums nobody will ever hear. That's a BB gun with a silencer.
Nah,
that's the gun with the flag that says bang on it. Slang on it, ain't a motherfucker in your lane wanted.
Pussy
finger guns going pew pew pew. But only thing they killing is the algorithms on my YouTube. Lucky I don't cut into you at length. Real talk, you Chet Hanks don't get spanked. Never turned out a fade like Boosie. But fuck that, diamond on my mind like Boosie. Back rubs and jacuzzis with Carucci. 2023 making movies with QT. At the playoff game next to Woody and Soon Yee. Running this rap thing until my interest wane. No Tunchi. I drop it on the one, fuck the 2-3. To think this all started with Ruchki and Loose Leaf. Yod's not an MC, I'm a crew chief. About to get my own line of vodka for this Ruski.